Infomag vous est présenté par la Société Lefroy et Coca-Cola. Suivez toute leur actualité sur leur page Facebook et Instagram.
Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Le projet d'accord de Bougival rejeté par l'UC. Les signataires UC de l'accord de Bougival sont désavoués et leur mandat tombe de fait. La Calédonie compte 264 596 habitants. L'ISEE a dévoilé ce matin les premiers résultats du recensement 2025. Page spéciale dans ce journal avec Jean-Philippe Broutier qui a supervisé les opérations pour l'INSEE. David Guyenne placé en garde à vue. Il s'agit d'une procédure pour des malversations financières qui visent les activités d'entrepreneurs du président de la CCI. Retour sur le vote de deux textes au Congrès hier. Les élus ont adopté une allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi et une mesure incitative à l'embauche. L'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis ne passe pas en métropole. François Bayrou a même parlé d'un jour sombre pour l'Europe. Et puis le sport et Maxime Grousset en or dans les bassins de Singapour. Le Calédonien est devenu champion du monde du 50 mètres papillon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, rappelons qu'on retrouvera juste à la fin de cette édition le magazine Citoyen. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François Baudin.
Il y sera question cette semaine des méfaits du cannabis.
Oui, effectivement, on va parler des dangers du cannabis et notamment chez les plus jeunes en Nouvelle-Calédonie, puisque vous le savez, l'Agence sanitaire et sociale a publié une campagne de communication et de prévention à destination de ce public. On va en parler notamment avec le docteur Barguil, mais aussi avec une infirmière du programme Déclic qui s'occupe justement de ce public.
Et l'actualité politique à la une et ce coup dur pour l'accord de Bougival, comme on pouvait s'y attendre après les tensions du comité directeur de l'Union calédonienne réuni ce samedi à la tribu de Gatop, l'UC rejette formellement le projet d'accord et désavoue ses signataires, Elisabeth Noir.
C'est tôt ce matin que la résolution de l'Union calédonienne adoptée lors de ce comité directeur a été rendue publique. Après de nombreux considérants, elle indiquait, je cite, que l'Union calédonienne rejette formellement le projet d'accord de Bougival en l'état, en raison de son incompatibilité avec les fondamentaux de notre lutte et les principes de décolonisation. Elle ajoute que par voie de conséquence, le mandat des signataires du projet d'accord et de ses équipes tombe de fait. C'est donc un rejet de l'accord de Bougival que laissait déjà entendre le communiqué publié la semaine dernière par la commission exécutive élargie. Et c'est un désaveu cinglant pour l'équipe de négociation UC, qui est pourtant composée de personnalités de poids. Il s'agit, rappelons-le, du président de l'Union calédonienne, le député Emmanuel Tchibaou, mais aussi de Rocco Miton et de Michael Forest. Alors c'est clairement une lutte interne qui se joue au sein de l'Union calédonienne, où le secrétaire général Dominique Fauchy et ses équipes prennent de plus en plus de poids, au détriment de l'UC historique. C'est aussi la tendance la plus proche de la CCAT, qui semble désormais mener le jeu. La résolution ajoute que cette décision sera notifiée à la puissance administrante ainsi qu'à l'ensemble de nos soutiens internationaux. Certains voient d'ailleurs la main de l'étranger dans ce revirement de l'UC. Le dernier point de la résolution acte le travail de renforcement de l'unité du front ainsi que celui de l'organisation des équipes sous la supervision du FLNKS. Il s'agit là du nouveau FLNKS constitué autour de l'UCCCAT qui doit réunir samedi un congrès extraordinaire. Et dans ces circonstances, on peut penser que le FLNKS, à son tour, rejettera l'accord de Bougival. La balle est sans doute désormais dans le camp de l'État, qui va devoir tirer les conclusions de la situation. On rappelle que sur les délégations signataires, une majorité soutient l'accord de Bougival. Il s'agit des loyalistes du rassemblement de l'UNI, de l'Éveil océanien et de Calédonie Ensemble.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS avec la réponse à notre question d'hier et 82% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils pensent que l'Union calédonienne va éclater après les tensions internes nées de la signature de l'accord de Bougival. Ils sont 18% à être d'un avis contraire. Voici notre question du jour. Regrettez-vous la fin de l'opération Livre mon ami qui depuis 1997 favorisait la lecture chez les jeunes de CM2 et de 6e? Si vous regrettez la fin de cette opération, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. 264 596, c'est le nombre de personnes qui vivent sur le territoire. L'INSEE et l'ISEE viennent de rendre public ce matin les premières données issues du recensement. Et pour en parler, Nicolas Legrand, nous recevons ce midi Jean-Philippe Groutier, qui est responsable du recensement à l'INSEE.
Bonjour Jean-Philippe Groutier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi, juste après cette conférence de presse pour dévoiler les premiers chiffres du recensement. Ce qu'on peut dire, Jean-Philippe Groutier, c'est que c'est une première depuis 1946. La population oui. calédonienne a baissé entre deux périodes de recensement.
Oui, depuis 1946, ça n'était jamais arrivé. Première fois que la population a baissé entre deux recensements. On peut même dire que sur toute la première partie du XXe siècle, on avait une population qui avait oscillé entre 50 et 60 000, qui était à 62 000 en 1946, qui après avait augmenté très régulièrement, et qui, là, entre 2019 et 2025, baisse. Ceci dit, le ralentissement de la croissance avait déjà été très marqué entre 2014 et 2019.
Donc là, concrètement, on passe de 271 400 à 264 596. Deux facteurs qui expliquent cela ?
Oui. Comme toujours, pour l'évolution d'une population, une population peut évoluer soit via le solde naturel, la différence entre les naissances et les décès, soit via le solde migratoire, la différence entre les personnes qui arrivent pour s'installer dans le territoire, moins les personnes qui partent définitivement du territoire. Donc moins 7 000 entre 2019 et 2025 pour la population totale, plus 11 000 pour le solde naturel.
C'est-à-dire 11 000 naissances de plus
que de décès. Et moins 18 000 pour le solde migratoire, donc 18 000 départs de plus que d'arrivées.
Donc ça, c'est un phénomène qui s'est creusé, puisqu'on avait déjà eu un solde migratoire négatif sur la dernière période de recensement, mais là, c'est vraiment la dégringolade.
Oui. Si on compare à ce qu'on aurait eu si les tendances étaient restées les mêmes qu'entre 2014 et 2019, on a à peu près un tiers de l'écart qui s'explique par la baisse du solde naturel, essentiellement lié à la baisse des naissances, et deux tiers qui s'expliquent par le creusement du déficit migratoire.
Et pour autant, c'est sur l'ensemble de la période 2019-2025, il est trop tôt pour le moment pour déterminer si ça vient de la crise et des violences de mai dernier.
Oui, pour l'instant, on ne peut parler que de l'évolution 2019-2025. Il faut attendre d'avoir l'ensemble des réponses, exploiter l'ensemble des questions pour éventuellement affiner. Après, je crois qu'il faut se dire qu'on a, derrière cette baisse de population, au moins trois phénomènes. Il y a un premier ensemble de phénomènes qu'on constate à peu près dans toutes les régions de France, dans toutes, même les régions d'Europe, qui est le vieillissement de la population, en conséquence la baisse de la natalité, la baisse de la fécondité. Tout ça, c'est des mouvements de fond de la société, je dirais. Après, on a des choses qui étaient déjà visibles dans les données 2019. C'est qu'on avait déjà, entre 2014 et 2019, une baisse assez sensible de l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. On avait déjà, à l'époque, entre 2014 et 2019, un solde migratoire négatif. Et puis, on a des éléments que je qualifierais un peu de conjoncturels. Entre 2019 et 2025, on a eu la crise du Covid, impact sur la mortalité, mais aussi impact sur les mouvements, les arrivées et les départs, et puis les événements de mai 2024 qui ont pu aussi jouer à la fois sur l'attractivité, mais aussi sur les départs. Donc c'est une combinaison d'un peu tous ces éléments, certains très structurels, d'autres plus conjoncturels.
Alors, au-delà de ce nombre que vous avez publié ce matin, vous avez déjà zoomé un petit peu province par province et commune par commune, puisque vous avez publié les populations dites municipales. Ce qu'on peut retenir, c'est que la province sud se dépeuple au profit de la province nord et de la province des îles, qui gagnent quelques habitants.
Oui. En gros, moins 2,5% pour l'ensemble du territoire, moins 4% pour la province sud, plus 2%, on arrondit, pour le nord et les îles. Ça ne suffit pas à transformer massivement le poids relatif des trois provinces, bien sûr.
Quel enseignement on peut en tirer ? La province sud représente toujours 74% à peu près de la population.
Oui, c'est en gros, on a toujours trois quarts pour arrondir de la population en province sud. Voilà. Après, les différents éléments qu'on observe sont assez, cohérents avec ces évolutions. Si on se dit qu'il y a en partie une moindre attractivité et un peu plus de départ, c'est beaucoup sur le Grand Nouméa que ça se joue. C'est pas... Voilà. Vu le poids, la baisse de la natalité, elle se joue aussi plus en zone urbaine ou très urbaine que dans les zones plus rurales.
Très concrètement, les communes de l'agglomération perdent des habitants, hormis Païta qui en gagne.
Païta en gagne un peu. Dimbéa a une perte très légère, qui s'explique pour l'essentiel par ce qu'on appelle, nous les démographes, le cycle de vie. Les gens qui sont allés s'installer il y a 15 ans à Dimbéa, ils étaient arrivés avec des enfants. Maintenant, les enfants ont grandi et les parents se retrouvent tout seuls. Donc, Dimbéa, on a une baisse à cause d'une baisse du nombre de personnes par logement, largement liée à ça. Mondor perd à peu près 2000 habitants et Païta continue à en gagner parce qu'il y a eu encore, dans les périodes récentes, beaucoup de constructions. Donc le mouvement, qui là aussi un mouvement qu'on observe partout en France, où la ville-centre a tendance à se dépeupler au profit des périphéries. En gros, j'ai envie d'un pavillon avec un jardin. C'est plus facile à le financer, à le trouver à Païta qu'à Nouméa.
On regardait aussi tout particulièrement la zone VKP avec évidemment les problèmes du secteur de la mine. Là, ce sont des communes aussi qui perdent un certain nombre d'habitants, hormis Conné qui reste à peu près stable.
Non, Conné reste stable. Non, les autres communes
augmentent.
Donc Pointe-Boute, Vaux, même jusqu'à Calagomène. Là, c'est un effet lié à la période 2019-2025. Ce n'est pas les évolutions 2024-2025. Donc on a eu, je dirais, des gens qui étaient arrivés en 2019, 2020, 2021. C'est aussi la période où, dans certaines de ces communes, on a eu des constructions qui ont été livrées. Donc, pour peut-être schématiser un petit peu, mais la personne qui a été embauchée dans l'usine du Nord, au début, elle était en basse vie, ou elle était dans un appart-hôtel, ou un petit logement tout seul. Après, il y a eu des constructions, elle a acheté un logement, elle a amené sa famille, et puis toutes ne sont pas reparties, parce que ça ne se fait pas si facilement que ça, de redéplacer, notamment pour ceux qui ont acheté et qui ont peut-être un crédit, etc., et qui ne peuvent pas se permettre d'abandonner leur maison.
Merci en tout cas Jean-Philippe Broutier pour ces premiers enseignements. On va voir maintenant de quoi va être fait la suite, puisque l'INSEE a mené ce recensement en partenariat avec l'ISEE, qui va maintenant publier des études tirées des questionnaires. Je vous propose d'écouter Élise Desmazures, la directrice de l'ISEE.
C'est de connaître vraiment notre population, c'est pour ça qu'on a des formulaires et des questionnaires qui sont très précis. Et donc effectivement, on pourra en savoir beaucoup plus sur la population, sur l'âge moyen, sur combien d'hommes, de femmes, qui sont des données très importantes, en particulier pour nos décideurs. Là, on est en phase de scan de tous les formulaires. Donc tous les bulletins individuels et les feuilles de logement vont être scannés. Ensuite, on va procéder à la lecture optique. Ensuite, on va procéder à l'établissement de la base de données. Donc là, ça veut dire qu'on va faire des redressements statistiques, le traitement par exemple de la non-réponse, etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a une base de données qu'on est capable d'exploiter.
Et les publications tirées de ce recensement vont maintenant s'étaler sur plusieurs années.
On va, dans un premier temps, sortir une publication conjointe avec l'INSEE sur l'analyse démographique. Donc c'est à ce moment-là, on espère que ce sera plutôt au premier trimestre 2026, une analyse, par exemple, de la pyramide des âges et un focus un peu plus précis sur les naissances et les décès, par exemple, et expliquer, par exemple, la fécondité, etc. On aura une base de données en open data qui sera disponible, donc qui permettra à tout un chacun de faire ces analyses. Et nous, on procédera à différentes analyses au cours de l'année 2026, mais aussi les années suivantes, en fonction de différents angles d'analyse qui peuvent être l'emploi, les déplacements, l'équipement des ménages, etc.
Et les premières données ont déjà été publiées sur le site de l'ISEE, que vous pouvez retrouver assez facilement, bien entendu. Jean-Philippe Groutier, un mot peut-être, puisqu'on a évoqué l'agglomération, la ville la plus importante, c'est Nouméa. Aujourd'hui, Nouméa compte moins de 90 000 habitants. C'est ce qu'il faut retenir de ce résultat?
Oui, Nouméa est à 85 000 habitants. La baisse depuis 2019 s'explique pour entre 35 et 40% par la diminution de la taille des ménages. Et ça, c'est un phénomène, là aussi, sociologique qu'on a à peu près partout. C'est la conséquence du vieillissement, c'est la conséquence du moins d'enfants, c'est la conséquence des séparations, etc. Et pour deux petits tiers, par l'augmentation de la vacance des logements. On a une vacance des logements qui passe en gros d'un peu moins de 9% à 15%, qui est en phase avec à la fois le discours des professionnels, mais aussi ce qu'on observe dans chez les bailleurs sociaux, par exemple.
Et donc, je rappelle qu'on peut retrouver tous ces éléments bruts sur le site internet de l'ISEE. Voilà, Jean-François Bodin.
Et il est 11h46, la première pause de ce journal. Dans un instant, l'actualité judiciaire en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu ? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité judiciaire et les gardes à vue prolongées dans la quête visant David Guyenne pour abus de biens sociaux, blanchiment d'abus de biens sociaux et complicité de recel d'abus de biens sociaux. Trois personnes ont été arrêtées hier, dont le président de la CCI, en qualité de co-gérant de deux sociétés. La garde à vue de ces trois personnes a été prolongée de 24 heures. C'est ce qu'indique le procureur de la République dans un communiqué publié en fin de matinée, Nicolas.
Oui, l'enquête est née d'un signalement en 2023 des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie après un contrôle de la comptabilité de la SR. L'édifice des magasins Corail. C'est un dossier technique de malversation financière. En fait, il est reproché aux mises en cause un montage frauduleux visant à organiser le rachat par la SARL l'édifice de parts surévaluées d'une SCI, puis d'opérer une fusion-absorption pour un montant d'1,1 milliard de francs. La part de la SCI était évaluée à 1 000 francs entre 2010 et 2013 et est passée à 1 million de francs en 2017. Une vente à prix manifestement majorée qui s'est révélée très préjudiciable pour la SARL l'édifice, qui s'est fortement endettée et qui a été placée en procédure de sauvegarde en 2024. Le parquet indique que cette fusion-absorption répondait à des motivations financières et fiscales au bénéfice seul des associés, dont David Guyenne, correspondant à un appauvrissement de la société de 2 milliards de francs, si on compte en plus les emprunts. L'administration fiscale évalue cet avantage illicite des gérants à 685 millions de francs. Des perquisitions ont été menées hier au domicile des mises en cause et dans leurs locaux professionnels. Les auditions se poursuivent pour 24 heures supplémentaires. Dans cette procédure, le parquet a initié des mesures de saisie des avoirs criminels à titre conservatoire portant sur des comptes bancaires ou des valeurs immobilières ainsi que des biens immobiliers. Le procureur de la République précise dans ce communiqué que la procédure se poursuit et qu'ils sont donc pour le moment présumés innocents.
Deux fugitifs de Koné arrêtés, âgés de 20 ans. Ils s'étaient évadés du centre de détention de Koné le 13 mai 2025. Un prisonnier est toujours recherché, Léo Fichou.
Oui, ces deux jeunes détenus avaient pris la fuite au petit matin, peu après 4 heures. Outre les faits d'évasion, il aurait reproché quatre tentatives de vol d'un véhicule commis à Koné et Pointe-Bout pour assurer leur fuite, mais aussi un vol avec violence d'une montre et d'un portable dans une résidence de Koné, 30 minutes seulement après s'être échappé. Ils ont finalement été arrêtés dimanche lors d'un contrôle routier à la fois et été jugés pour ces faits ce matin au tribunal correctionnel dans le cadre de la comparution immédiate. Les deux jeunes hommes se trouvent en état de récidive pour les faits de vol aggravés. Un autre fugitif est toujours activement recherché, tandis que deux autres avaient déjà été arrêtés. Le parquet précise que d'importants moyens ont été déployés par la gendarmerie avec un dispositif de sécurité renforcé intégrant l'antenne du GIGN.
L'avocate du général Marquis Lecea répond au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a porté des précisions concernant la situation administrative de son client qui a été démis de ses fonctions de directeur de la DSCGR le 16 juillet dernier. Pour mettre le pape, le gouvernement entretient un flou volontaire, voire tendancieux, Elisabeth.
Et cela devient un véritable feuilleton puisque l'avocate du général Marquis Lecea répond à une prise de position du gouvernement qui réalisait lui-même aux propos tenus la semaine dernière par Maître Le Peuple qui avait dénoncé un non-respect de la procédure. Dans un communiqué publié hier soir, le gouvernement souhaitait apporter des clarifications et rétablir les faits. Mais Maître Le Peuple dénonce un communiqué tardif qui ne fait que réagir à ses propos et qui est, selon elle, juridiquement infondé et factuellement inexact.
Ma première réaction a d'abord été de sourire car je crois que ce communiqué est un inédit. Il traduit un certain malaise du gouvernement dans son entier et qu'à trop vouloir se justifier, cela en devient presque, si vous me passez l'expression, suspect. Alors je l'ai lu bien sûr attentivement et je me livrerai bien à une analyse de texte parce que je pense qu'il y a beaucoup à redire et que les mots choisis ont un sens, mais je crois que ce serait surtout pour vos auditeurs quelque peu fastidieux. Ce temps viendra assurément dans le cas des recours que nous déposerons. Et finalement, ce recours est une nouvelle pièce qui vient donner du crédit à notre démonstration.
Dans ce communiqué, le gouvernement rappelait d'abord que Frédéric Marchetti avait fait l'objet d'une suspension de ses fonctions, une mesure provisoire et conservatoire qui n'est en aucun cas une sanction disciplinaire, mais une précaution administrative. Il indiquait ensuite que le général Marchetti et son avocate avaient été conviés à deux reprises à des entretiens et qu'ils ne se sont pas présentés. Maître Le Pape s'insurge contre cette présentation. Selon elle, le gouvernement omet notamment de préciser que son client a été convié sur sa boîte mail professionnelle qui avait été désactivée de façon unilatérale au mois de mars. Mais ce n'est pas tout.
Il omet également de préciser que l'agent nommément cité depuis ce premier courrier pour consulter le dossier n'a répondu à la sollicitation expresse du conseil de M. Marchetti que je suis que tardivement, qu'il n'était pas informé de cette mission, qu'il a souhaité en référer à sa hiérarchie, qu'il a remis en cause la possibilité pour un avocat de le consulter, qu'il ne disposait pas dudit dossier au moment où je l'ai sollicité, qu'il a indiqué devoir le préparer et avoir, pour ce faire, nécessité d'un délai, je cite, raisonnable, et a enfin proposé une consultation du dossier la veille pour une invitation, toujours entre guillemets, le lendemain. Le conseil de M. Marchetti a alors sollicité par courrier auprès du président du gouvernement un délai, ce qui lui a été refusé. Je pose une question. Un délai de seulement 24 heures pour consulter un dossier qui a été monté depuis 6 mois et qui comporte un audit mené pendant des mois, est-il sérieux ou raisonnable pour exercer réellement les droits de la défense, le principe du contradictoire et citer des témoins?
Pour mettre le peuple, le gouvernement avait toute latitude pour déplacer cette réunion et elle estime que les droits élémentaires de la défense n'ont pas été respectés. Elle confirme qu'en conséquence, les procédures prévues vont se poursuivre avec une plainte au pénal, une action auprès du tribunal administratif et éventuellement une procédure au civil.
Et dans son communiqué, le gouvernement ajoute que dans l'attente de la nomination d'un nouveau directeur opérationnel, il reste pleinement engagé à accompagner la restructuration de la DSCGR et que dans cette perspective, un partenariat a été établi avec la commune de Païta dont les services apportent un appui technique et organisationnel précieux. On sait en effet que Gwenval Cambon, chef de corps des pompiers de Païta, a été nommé directeur par intérim de la sécurité civile et de la gestion des risques de Nouvelle-Calédonie pour une durée de 3 mois. L'actualité économique et les élus du Congrès au chevet de la crise de l'emploi. Le dispositif de chômage partiel financé par l'État a pris fin le 30 juin dernier. Mais deux dispositifs de soutien à l'emploi ont été adoptés hier au Congrès, Charlotte Coulson.
Prévenir les licenciements massifs et encourager le maintien à l'emploi. C'est le but de ce projet de loi du pays présenté hier par le gouvernement au Congrès. Il est écrit autour de deux mesures phares. La première est une allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi. Elle est fondée sur le même principe que le dispositif de chômage partiel. L'allocation est équivalente à 100% du SMG dans la limite de 125 heures par mois. Le reste sera pris en charge par l'employeur. Le second dispositif présente une mesure incitative à l'embauche, la réduction dégressive des cotisations patronales pour toute embauche d'un demandeur d'emploi pour une durée supérieure à 6 mois. Selon Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment du travail et de l'emploi, ces mesures visent avant tout à valoriser le travail.
Parce qu'il y avait au début une volonté d'augmenter le chômage de droit commun. Et augmenter le chômage de droit commun, c'était payer de l'assistanat. On n'était vraiment pas dans cette logique, puisque avec les partenaires sociaux, on a voulu avoir un dispositif qui valorisait le travail, donc qui valorisait à la fois le maintien du travail et valorisait le retour au travail. Et donc, augmenter le chômage de droit commun, ça coûtait 13 milliards. Avoir ce dispositif qui réincite les gens à travailler, c'était 4 milliards. Et surtout, avec le deuxième dispositif, il y a des entreprises qui retrouvent de l'activité, mais qui hésitent aujourd'hui à embaucher. Et donc, c'est un plus pour les entreprises où on prend en charge les cotisations patronales jusqu'à la fin de l'année pour embaucher des personnes qui étaient éloignées de l'emploi.
Le dispositif est entièrement financé par l'État, 4 milliards au total, pris dans l'enveloppe de 13 milliards dédiée au soutien à l'emploi octroyé l'année dernière. L'aide concerne les entreprises impactées par les émeutes, mais pas seulement.
Ça concerne les entreprises qui ont un ralentissement d'activité. Celles qui sont entre mai et juin concernées par le chômage partiel seront automatiquement déversées dans le nouveau dispositif. Par contre, celles qui ont un ralentissement d'activité, elles devront déposer un dossier à la direction du travail de la Nouvelle-Calédonie et feront l'objet d'un traitement le plus rapidement possible. C'est un pansement, mais ça va quand même toucher 4000 Calédoniens et ça va leur permettre d'avoir un salaire. Donc c'est un beau pansement qu'on effectue, mais oui, c'est une mesure transitoire. Le but pour nous, c'est de relancer l'économie calédonienne. C'est de redonner du travail aux gens par une reprise de l'activité. D'autres mesures vont être prises pour soutenir les chantiers publics, pour soutenir les chantiers privés et pour dynamiser un peu plus l'économie calédonienne.
Le projet de loi du pays a donc été adopté à l'unanimité. Les dispositifs s'appliquent pour une durée de 6 mois de manière rétroactive à compter du 1er juillet et jusqu'au 31 décembre 2025.
L'UGPE a réuni la presse ce matin pour évoquer plusieurs dossiers et notamment les suites des recours juridiques contre la délibération de la province Sud à propos des critères d'octroi des bourses scolaires. L'association de parents d'élèves avait déposé des requêtes face aux critères de 10 ans de résidence imposée pour avoir droit aux bourses. Ces derniers jours, Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud, a répondu par courrier aux membres de l'UGPE. Écoutez Jean-France Toutiquian, son secrétaire général.
Il a fallu faire des recours avec des exemples d'enfants en maternelle, d'enfants en primaire, d'enfants en collège, en lycée et même jusqu'à l'université. Donc c'est ce qui a, je pense, incité la justice à sanctionner la province Sud. Donc oui, ça avance d'un côté. On a reçu une lettre de M. Gilles Brial il y a une semaine. Donc là, le tribunal administratif nous a donné raison. La province Sud a accepté le principe de revoir cette délibération, ce qui va être fait jeudi. Donc on reste très vigilant pour vraiment s'assurer que ce jeudi, lors de l'Assemblée de la province Sud, il y ait vraiment une délibération qui permette à toutes les familles qui résident en province Sud depuis 6 mois, c'est-à-dire l'ancienne réglementation, de pouvoir obtenir la bourse pour leurs enfants de façon à ce que leurs enfants puissent disposer de bonnes conditions pour travailler.
L'Union des groupements de parents d'élèves a également présenté son séminaire sur l'éducation qui vise à repenser le système éducatif en Nouvelle-Calédonie. Des ateliers seront organisés dans les prochains mois en province Sud, mais aussi en province Nord et en province des Îles. 11h57, une nouvelle pause. On voit dans un instant ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don, par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
En métropole, les réactions se multiplient après l'accord commercial signé entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, Donald Trump. Accord qui prévoit que tous les produits de l'Union entrant sur le sol américain seront taxés à 15%. Ursula von der Leyen s'est félicitée de cet accord, mais la classe politique française est beaucoup plus critique. À droite comme à gauche, on s'indigne d'un accord qui fragilise l'économie des pays européens. Le Premier ministre François Bayrou parle même d'un jour sombre pour l'Europe. Arthur Delaborde pour Europe 1.
On envoie le signal que l'Europe se couche devant Trump. Un proche de François Bayrou résume une colère froide mais déterminée. Il dénonce un texte qui sert les intérêts nationaux, pas l'intérêt global de l'Europe. Le « je gagne, tu perds » de Trump, ce n'est pas un accord, c'est un déséquilibre profond, explique-t-il. François Bayrou n'entend pas renier son engagement européen, au contraire. Soit on résiste, soit on continue à se faire manger, tranche infidèle. Et dans cette affaire, il est sain qu'une voix s'élève pour dire que ce n'est pas normal. La France peut-elle bloquer ? Seul, en tout cas au Conseil européen, il faut 3 autres pays représentant 35% de la population du continent. Un rejet du Parlement français serait possible, mais ne suffirait peut-être pas. Reste à savoir ce que veut Emmanuel Macron. À ce stade, silence à l'Élysée qui préfère attendre tous les détails de l'accord avant de réagir. Mais sur ce type de dossier relevant de la politique commerciale internationale, c'est bien le président qui décidera de la suite.
Et les critiques sur cet accord commercial sont partagées par les organisations patronales. Le MEDEF et la CPME notamment craignent le pire dans les mois qui viennent. Au chapitre politique, en bref, on retiendra que l'ancien Premier ministre Michel Barnier a été investi par son parti, les LR, pour la candidature à la mairie de Paris. Une décision qui risque de provoquer des tensions alors que Rachida Dati, qui siège dans le Conseil de Paris dans l'opposition, brigue le poste. La création d'un État palestinien est la seule solution pour la paix au Proche-Orient. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron avait annoncé sur ses réseaux sociaux que la France allait reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre prochain. Son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a défendu cette idée au siège de l'ONU à New York. C'est pour lui la seule solution.
Nous devons travailler aux voies et aux moyens de passer de la fin de la guerre à Gaza à la fin du conflit israélo-palestinien. Pour y parvenir, seule une solution politique à 2 États permet de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Il n'existe pas d'alternative. Face à la multiplication des faits accomplis sur le terrain et à l'accélération sans précédent de la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie, la perspective d'un État palestinien viable doit être préservée à travers la mise en œuvre de mesures concrètes.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce nouvel ultimatum de Donald Trump à Vladimir Poutine. Le président américain est agacé par son homologue russe qui ne manifeste aucun empressement à mettre un terme au conflit avec l'Ukraine. 15 jours après un premier ultimatum de 50 jours pour faire cesser les combats, il donne cette fois-ci 15 jours à Vladimir Poutine et menace d'éventuelles sanctions secondaires contre des pays qui achèteraient des produits russes, notamment des hydrocarbures. Midi 1, on va parler sport dans un instant avec ce titre de champion du monde de 50 mètres papillon pour le Calédonien Maxime Grousset.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La foire de Bouraille est de retour les 15, 16 et 17 août. Faites votre carburant dans les stations Shell et Pacifique pour tenter de gagner un Toyota Hilux spécial foire de Bouraille. Urne et tirage au sort à la foire le 17 août. N'oubliez pas de remplir votre bulletin de participation.
Écoute, il y a un jeu avec les Team Tam jusqu'au 31 août. Tu scannes le petit code dans le magasin, tu joues au mini-jeu, faut retrouver la balle sous un des trois gobelets, et si tu gagnes, t'es inscrit direct au tirage au sort. Chaque lundi, il y a un gagnant. Il y a des lots fin valables à gagner. Switch, télé, trottinette et même une voiturette. Plus d'informations sur le Facebook Arnaud Sensei Community. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et à la une de l'actualité sportive, évidemment, ce nouveau titre de champion du monde en natation pour le Calédonien Maxime Grousset, Léo.
Oui, il a remporté hier soir pour nous la finale du 50 mètres papillon aux Mondiaux de Singapour. Il s'agit de son second titre mondial après celui obtenu. C'était sur le 100 mètres papillon au Japon en 2023. Avec un chrono de 22 secondes et 48 centièmes, Maxime Grousset bat une nouvelle fois son propre record de France, qu'il avait d'ailleurs déjà battu en demi-finale. Le Calédonien devance le Suisse Noé Ponti de seulement 3 petits centièmes. Tout s'est joué dans le dernier mètre, comme l'a expliqué Maxime Grousset.
Il y avait beaucoup de tension, mais en même temps, je suis resté vraiment souple. Voilà, je me suis senti vraiment serein sur cette finale. J'ai vraiment lancé mes bras, je savais que je pouvais pas rajouter un... J'ai hésité au dernier moment à mettre un dernier coup de bras. Heureusement que je l'ai pas fait, je suis resté sur ma vitesse. J'étais un peu loin du mur quand même. Mais c'est fait, j'étais vraiment pas sûr de moi quand j'ai touché le mur. Je me suis dit, je pense que je fais deux, honnêtement. Et là, je vois le 1 sur le plot et c'était la délivrance.
Après des Jeux Olympiques à Paris l'an dernier qui avaient été décevants pour Maxime Grousset, avec pour seule consolation le bronze obtenu avec le relais 4x100 mètres 4 nages, ces mondiaux donnent un nouveau statut aux nageurs calédoniens.
Ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà je suis en forme pour la semaine de compétition, maintenant faut bien récupérer bien sûr. Mais ça signifie aussi que je suis pour l'instant le meilleur sur 50 mètres papillon et c'est une distance qui est devenue olympique. Donc c'est une chance de médaille en plus pour moi. Et pour la semaine, ça veut dire beaucoup de choses. Après, il faut savoir répéter les courses et les performances. Je pense que j'en suis capable. Donc, ça donne... peut-être que c'est un peu le début comme Léon Marchand quand il gagne au 404 nages. On dit, ça y est, c'est parti, compteur des médailles. Pour une fois, c'est moi, ça fait plaisir.
Cette semaine, Maxime Grousset sera également engagé sur le 100 mètres papillon, dont il est le tenant du titre, mais aussi le 50 et le 100 mètres nage libre.
L'actu sport, c'est aussi du cyclisme avec le Tour de France Dames et une troisième étape remportée au sprint par Lorena Vips.
La néerlandaise s'est imposée devant sa compatriote Marianne Vos, cette dernière qui récupère le maillot jaune de leader. Elle possède 6 secondes d'avance sur Kim Lecourt et 12 secondes sur sa coéquipière chez Visma Lease Bike, Pauline Ferrand-Prévot. On signalera que c'est une autre française qui porte le maillot blanc de meilleure jeune. Il s'agit de Julie Bégaud. Ce soir, quatrième étape entre Saumur et Poitiers, 130 km de plat. Au programme.
Il est midi à 4 minutes, la fin de ce journal qui va se poursuivre dans un instant par le magazine Citoyen présenté par Nicolas Legrand. Il reviendra cette semaine sur les méfaits du cannabis avec ses invités.